Les personnes âgées en CHSLD faisaient partie du peuple invisible. Il faut que ce peuple devienne visible.
C'est que ça n'a pas de sens ni pour un homme ni pour une femme de rester dans des conditions de vie comme ça.
Bonsoir. Les conditions déplorables dans lesquelles sont mortes des milliers de personnes dans les CHSLD du Québec au début de la pandémie continuent d'occuper nos esprits. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a réagi au rapport de la coroner Jeanne Kamel, dévoilé en début de semaine, qui fait la lumière sur l'hécatombe survenue dans les foyers pour personnes âgées au cours de la première vague. Aux yeux de la ministre, et je la cite, « les aînés en CHSLD demeurent encore à ce jour un peuple invisible. » Je retrouve Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, la ministre, elle a été au cœur de cette tempête. Donc, on s'attendait, on attendait avec impatience sa réaction au rapport de la coroner. Qu'est-ce qui en est sorti, finalement?
Oui, Mme Blais qui brisait le silence. Donc, à la suite de la sortie du rapport mardi dernier, elle était là en marge de l'inauguration d'un nouveau CHSLD dans le secteur de Laval. On s'attendait à une certaine émotion de la part de Mme Blais. Elle a été très brève. Le fait est qu'elle ne veut pas devancer la sortie publique de Mme Kamel qui va commenter son rapport. Elle n'a pas non plus voulu commenter les éléments du rapport de la coroner où elle est elle-même citée. Parce que certains diront que Mme Blais a été complètement épargnée par la coroner dans son rapport, alors que c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est bien indiqué que lors des audiences, Mme Blais avait dit que nous, on était sûrs que les CHSLD, c'était des endroits qui étaient habitués de gérer les éclosions. Et Mme Kamel, dans son rapport, dit que c'était une fabrication de l'esprit et que les CHSLD étaient et sont le parent pauvre du système de santé. Donc, voilà. Mme Blais, aujourd'hui, je vous le disais d'entrée de jeu, inaugurait le CHSLD Val-des-Brises à Laval. À Laval, oui, un endroit où on va accueillir des gens qui ont des troubles neurocognitifs sévères à modérés. Ça s'apparente aux maisons des aînés là, qui seront déployées un peu partout au Québec au cours des prochaines années et qui accueillera celui-là 232 personnes. Je vous laisse entendre Mme Blais sur le rapport de la coroner.
Bien, je ne veux pas commenter ce qu'elle a dit sur moi. Ce n'est pas important, mon moi. Ce qui est important, c'est que la société et le gouvernement, comme tous les gouvernements futurs, se préoccupe des plus vulnérables de notre société. Et j'ai souvent répété que les personnes âgées en CHSLD faisaient partie du peuple invisible. Il faut que ce peuple devienne visible.
Donc, on parle de son rapport, la coroner Jeanne Kamel. On l'a lu, ce rapport, il était disponible toute la semaine. Finalement, elle-même s'expliquera sur ses conclusions demain en conférence de presse.
Oui, exactement. Mme Kamel qui convoque la presse à 13h à Montréal. Ce sera l'occasion, donc, de poser des questions ou du moins d'avoir des explications sur certains éléments du rapport, entre autres sur les recommandations. Donc, la partie sur l'indépendance de la santé publique par rapport au gouvernement, au ministère de la Santé, il y a très certainement des nuances et des explications à apporter là-dedans. Lors des audiences locales aussi de l'enquête de la coroner, là, elle dit avoir remarqué une différence entre les témoignages de certains cadres des CIS et des CIUSSS et celui des employés sur le terrain là, concernant la perte de contrôle dans la propagation des infections. Ça va être intéressant de l'entendre là-dessus également. Les zones grises dans le témoignage du directeur national de la santé publique de l'époque, le docteur Horacio Arruda, qui, selon Mme Kamel, n'a pas été prêt à reconnaître où la préparation a fait défaut. Donc, on est très curieux d'entendre Mme Kamel là-dessus demain. Donc, on aura très certainement l'occasion de s'en reparler.
Tout à fait. Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Alors que le troisième mois de la guerre en Ukraine tire à sa fin, c'est à nouveau la ville dévastée de Mariupol qui retient notre attention. On vous a souvent parlé donc de cette énorme aciérie où des soldats ukrainiens ont résisté à l'envahisseur russe pendant des semaines. Bien, près d'un millier d'entre eux auraient maintenant rendu les armes et quitté l'usine, selon le Kremlin. Sabrina Rivet suit la situation pour nous. Bonsoir.
Bonsoir, Noémie.
Et on ne sait toujours pas ce que vont devenir ces combattants ukrainiens qui se sont rendus.
Non, le ministre russe de la Défense n'a émis aucun commentaire aujourd'hui dans un communiqué qu'il a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ce qu'on sait depuis le début, en fait, de l'évacuation qui a débuté ce lundi, bien, c'est qu'il y a 959 personnes, dont 80 blessés, qui se sont rendus aux forces russes et pro-russes, eux qui combattaient, comme tu le disais, depuis près de trois mois, donc depuis le début du conflit. Il y a quand même le porte-parole de l'armée ukrainienne qui a mentionné qu'il fait son possible pour aller sauver ces hommes-là et ces femmes-là parce qu'on ne connaît pas leur état de santé. Et là, pendant ce temps-là, du côté de Kyiv, s'est tenu le premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre. Et dès l'ouverture du procès, Vadim Chichimarine, 21 ans, a reconnu sa culpabilité. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Alors, il était accusé d'avoir tué un civil ukrainien d'une rafale de Kalachnikov à la fin du mois de février dans la région de Soumy. Et demain, il y aura l'audition de l'accusé, de la veuve de la victime et aussi de deux témoins.
Et on recevra un petit peu plus tard une avocate spécialiste en droit international pour en parler. Par ailleurs, les États-Unis ont rouvert leur ambassade en Ukraine.
L'ambassade donc des États-Unis à Kyiv, qui était fermée depuis le début du conflit, donc depuis le 24 février dernier. Vous la voyez d'ailleurs à l'écran. Alors, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un communiqué. Il y a même le drapeau américain qui a été hissé à l'ambassade en guise, là, vraiment, d'ouverture officielle. Donc, c'était fermé depuis le 24 février, comme je disais. Par ailleurs, pendant ce temps, il y a le président américain, Joe Biden, qui a encore une fois aujourd'hui mentionné qu'il soutient, en fait, l'adhésion de la Suède également de la Finlande à l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, ces deux pays-là ont déposé officiellement leur candidature du côté de Bruxelles. Et vous allez voir que même si ça fait longtemps qu'on en parle, mais je veux dire, il y a la Turquie qui est un peu réticente à l'effet que la Suède et la Finlande se joignent du côté de l'OTAN. Vous allez voir que Joe Biden est quand même assez confiant que ça pourrait fonctionner. On va l'écouter.
Le leader de Finland et Sweden are coming to see me on Thursday. I think we're going to be okay.
You can convince Turkey to accept their bid.
I'm not going to Turkey, but I think we're going to be okay.
Et Sabrina, la Russie ferme les bureaux de Radio-Canada à Moscou?
Oui, donc vraiment. Donc, vous savez, donc, au début de la guerre, Radio-Canada qui offrait des couvertures en direct de Moscou, eh bien là, maintenant, c'est terminé parce que la Russie qui a décidé de fermer le bureau de Radio-Canada, CBC. Toutes les accréditations, en fait, les visas des journalistes ont été annulés. Ce qu'on pense puis ce qu'on nous dit, c'est que c'est en réplique à l'interdiction du Canada de diffuser les chaînes du groupe russe RT au Canada. Ça aussi avait été annoncé, dans le fond, au début du conflit. Et ça fait réagir notamment le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Vous allez voir ce tweet qu'il a émis un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il a dit, par sa décision d'expulser des médias canadiens de Moscou, bien, Poutine tente de les empêcher de rapporter des faits. Et c'est carrément inacceptable. Les journalistes doivent pouvoir travailler en toute sécurité, sans censure, intimidation, ingérence. Le Canada qui défendra toujours ce principe. Il y a également Mélanie Joly qui a réagi sur son compte Twitter en lien avec cette nouvelle-là. Mais quand même, on nous parle de liberté d'expression. Et là, somme toute, on vient de couper le sifflet à ces journalistes du côté de Moscou.
Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Sabrina vient de l'évoquer, ce soldat russe accusé d'avoir abattu un civil qui a plaidé coupable aujourd'hui devant un tribunal de Kyiv. C'est le tout premier procès pour crime de guerre qui se tient en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. On va en discuter avec Muriel Paradel, elle est professeure de droit à l'Université d'Ottawa et spécialiste du droit pénal international. Bonsoir, Madame Paradel.
Bonsoir.
Donc, de notre point de vue de non-initié, ça semble quand même assez particulier qu'un procès pour crimes de guerre se tienne dans le pays où a lieu cette guerre et alors que le conflit n'est pas terminé. Est-ce que c'est plutôt inhabituel?
C'est plutôt inhabituel, effectivement. Par contre, ça montre bien que la justice intervient et qu'elle n'attend pas pour intervenir que le conflit soit terminé. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est plutôt inhabituelle. En principe, la justice, elle intervient après le conflit, une fois que la paix est rétablie et qu'on peut venir enquêter plus facilement.
OK. Parce que l'autre avantage aussi, peut-être, que ce genre de procès se tienne devant une instance externe, par exemple la Cour pénale internationale à La Haye, c'est peut-être une apparence d'une plus grande neutralité, parce que là, la Russie nous dit, nous aussi, on va juger des soldats ukrainiens pour crimes de guerre. Ça fait partie aussi de la guerre de l'information, en quelque sorte. Donc, est-ce que ça aurait été peut-être plus préférable d'attendre et de juger ces crimes-là devant un tribunal international?
Alors non, d'une part parce que la Cour pénale internationale, sa compétence, elle est complémentaire. C'est-à-dire qu'en premier, la Cour pénale internationale, le droit pénal international va favoriser l'administration de la justice par les juridictions nationales, parce que le crime s'est commis dans le pays même. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la preuve. On est en plus une administration de la justice dans la culture du pays, ce qui veut dire que cette justice, elle sera beaucoup mieux entendue, beaucoup mieux comprise. Et puis surtout, le pays va la recevoir. Elle va se faire dans la langue du pays, selon le droit du pays. Donc, en termes de réception de la justice, d'impact de la justice, c'est toujours préférable que la justice soit mise en œuvre dans le cadre du pays. Et là, la compétence de la Cour pénale internationale n'est que complémentaire. Elle intervient si le pays ne peut pas rendre justice ou si le pays ne veut pas rendre justice ou va la rendre dans des conditions qui sont inacceptables en termes de justice.
On a appris hier donc que cette Cour pénale internationale va déployer sur le terrain une quarantaine d'enquêteurs. Ce serait la plus grande mission que la Cour ait jamais envoyée dans un pays sur le terrain. Donc, c'est quoi le but de la mission? Quelles preuves est-ce qu'on va recueillir? Qu'est-ce qu'on va chercher?
Alors, les preuves, bien sûr, ce sont des preuves matérielles. C'est la première fois aussi, dans la mesure où les médias sociaux se sont énormément investis, c'est la première fois qu'on va avoir autant de preuves recueillies aussi rapidement. On a déjà des enquêtes qui ont été faites, on a déjà des preuves matérielles accumulées. Ça, on n'a jamais eu ça jusqu'à présent. Donc, à ce niveau-là, la Cour pénale, pour la première fois peut-être, va être grandement aidée parce que le pays non seulement participe à la cueillette des preuves, mais le monde entier, avec les services de renseignement, avec les médias sociaux, avec tous les spécialistes de l'informatique et des réseaux sociaux, ont recueilli une masse de preuves. Donc, à ce niveau-là, la Cour pénale internationale, pour la première fois, va avoir une véritable coopération internationale pour la collecte des preuves.
Fort intéressant. Dans le cas dont on discute aujourd'hui, ce simple soldat, bien, je l'appelle un simple soldat parce que sans doute qu'il obéissait à des ordres. Est-ce qu'on peut penser que de plus hauts responsables, voire Vladimir Poutine lui-même, pourraient un jour être jugés pour crime de guerre?
Alors, bien évidemment, dans le cadre du crime de guerre, sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour pénale internationale les exécutants, comme ce jeune soldat qui a lui-même directement tué cette personne civile, mais peuvent être également responsables les donneurs d'ordre au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, et alors même qu'eux-mêmes n'ont pas participé directement, mais ont soit donné les ordres, soit alors qu'ils étaient au courant que des crimes de guerre se commettaient, n'ont pas cherché à les empêcher. Donc oui, on pourrait effectivement voir Vladimir Poutine et les responsables, les chefs d'état-major, être poursuivis pour crimes de guerre.
En plus de simples soldats comme ce jeune homme. Merci. Oui, l'un n'exclut pas l'autre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fort éclairant, Muriel Paradel de l'Université d'Ottawa. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Le prince Charles et son épouse Camilla passent la journée à Ottawa. Ils se sont d'abord arrêtés au monument commémoratif de guerre, où une cérémonie a eu lieu en l'honneur des soldats morts au combat. Ils ont ensuite assisté à un service à la cathédrale orthodoxe ukrainienne de la capitale. Le couple finira sa journée en participant à une réception pour le jubilé de platine à Rideau Hall. Charles et Camilla termineront leur voyage au Canada demain. Ils se rendront dans les territoires du Nord-Ouest. Après avoir passé 11 mois derrière les barreaux, une ancienne détenue de la prison Leclerc à Laval lance un livre pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils sont détenus entre 150 et 200 femmes. Ce n'est pas la première fois que cet ancien pénitencier fédéral pour hommes fait l'objet de critiques. Il avait été fermé pour cause de vétusté en 2012, mais il est maintenant loué par le gouvernement provincial pour y incarcérer des femmes. Camille Lorrain-Desjardins a rencontré l'autrice du livre, Louise Henry.
Tu sais, on dit qu'il faut faire couler l'eau à l'abreuvoir 5 minutes avant de la boire. On parle pas d'un robinet, on parle des abreuvoirs. 5 minutes avant d'en prendre une gorgée, avant que ça soit potable, apparemment. Hey! Louise Henry, ancienne détenue de l'établissement Leclerc de Laval, présentement militante à temps plein pour la CACIF et autrice du livre « Délivrez-nous de la prison Leclerc ». On ne demande pas que ça soit un hold-in, mais...
Décrivez-nous, ça avait l'air de quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus...
C'est la tuyauterie pète. Les drosophiles, tu peux en avoir par milliers. C'est pas une centaine. Puis quand t'as un rideau de douche, que t'es capable d'avoir un rideau de douche, bien, ils sont tous après, là. Fait que tu te laves la tête avec les drosophiles. Dormir avec ton manteau d'hiver, tes mitaines puis ta tuque parce qu'il fait trop froid, tu sais, c'est des vieilles portes, ça se rouvre individuellement avec une grosse clé. Ma cellule à moi, que la clé, ça prenait un gros 5 minutes des fois à m'ouvrir la porte. Puis je lui disais, tu vois bien, s'il pogne le feu, moi, ça va falloir que je te dise, ah non, pas aujourd'hui, ma belle, parce que je sors pas d'ici, là. Il y a beaucoup de moisissures, des souris, des rats, l'électricité, tu peux t'électrocuter en touchant un comptoir en stainless. Wow, la belle affaire. Si je comprends bien,
Le fédéral trouve que l'établissement Leclerc n'est pas assez bien pour les hommes, mais le provincial, lui, le juge assez bien pour les femmes. Tout est à sécurité maximale aussi. On parle pas de tueur à gage. Puis même encore là, je veux pas cataloguer les crimes. C'est que ça n'a pas de sens ni pour un homme ni pour une femme de rester dans des conditions de vie comme ça. T'en as pour la plupart qui ont des troubles psychologiques de léger à sévère. Puis attendre 10 jours pour avoir des médicaments. Comment est-ce que ton système est viré à l'envers? Puis en plus de nous mettre là, on nous amène des agents correctionnels qui travaillent et qui sont formés pour de la clientèle masculine à sécurité maximum. Il y a eu pas seulement des suicides, il y a eu des morts naturelles qui n'étaient pas des morts naturelles. C'était de la négligence médicale.
Pensez-vous que votre livre va avoir un impact?
Oui, j'espère. Mais c'est pas fini. C'est juste le début. Parce que je m'arrête pas. J'ai des projets en avant de moi. Puis n'oublions pas que les élections sont au mois d'octobre.
Au retour, que ce soit pour l'école ou même pour les loisirs, le temps d'écran des jeunes a explosé pendant la pandémie. 2 ans plus tard, sont-ils prêts à les délaisser? On vous en parle dans un instant. La décision du cégep de Saint-Laurent de mettre fin aux activités de son équipe de hockey féminin continue de créer des vagues. L'établissement a invoqué la difficulté de recruter des joueuses et des entraîneuses pour justifier la fermeture du programme qui a pourtant servi de tremplin à des championnes de la trempe de Caroline Ouellette. La décision suscite l'indignation des joueuses et de certains élus. Je reçois Enrico Ciccone, il est député libéral de Marquette et porte-parole de l'opposition en matière de sport. Bonsoir, M. Ciccone.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Ça nous fait plaisir. On dirait que le dossier a bougé dans les dernières heures, dans les derniers jours. Le retour du programme à l'automne serait confirmé ou sur le point de l'être?
Bien, sur le point de l'être, c'est ceux qui va avoir besoin là, d'une présence plus accrue des joueuses. Mais j'ai parlé avec les jeunes joueuses aujourd'hui, puis sont confiantes de trouver des joueuses de hockey, l'entraîneur également. Il y a des joueuses internationales aussi, 3 Françaises qui vont joindre le programme. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais je trouve ça quand même dommage là, qu'on soit obligé d'arriver à prendre une décision comme ça et puis par la suite d'être obligé de mettre de la pression de l'équipe. Ils se sont mobilisés, de la pression également à des élus comme nous, puis c'est notre rôle de le faire. Et moi, en tant que qu'ancien joueur de hockey, ça me préoccupe énormément. Alors qu'on vient de voir justement là, qu'un rapport qui a été déposé par un comité hockey à la demande du gouvernement, alors qu'on dit qu'on doit absolument renforcer le sport féminin, le hockey féminin, et une semaine plus tard, bien, on soustrait au lieu d'additionner. Et moi, ça m'inquiétait.
Mais aidez-nous à comprendre, à mesurer ce que ça représente, la perte d'un programme comme ça. Quand on est une jeune hockeyeuse puis qu'on aspire à atteindre les sommets de son sport, qu'est-ce que ça veut dire, une perte comme ça?
Effectivement, si on compare avec les garçons ont plusieurs avenues pour se développer, ont plusieurs ligues également, plusieurs niveaux pour le faire. Mais il faut comprendre que pour les filles, là, le hockey collégial, c'est un tremplin vers le hockey universitaire et même vers le club national, le club canadien et même le club du Québec aussi. Alors, c'est 10 fois plus important pour les filles avoir un programme collégial de la sorte comme Saint-Laurent et les autres. Alors, il faut le prendre en considération et c'est pour ça que les acteurs du milieu, que ce soit le ministère de l'Éducation et même ceux qui s'occupent du sport, doivent vraiment penser à vouloir financer un peu plus aussi pour s'assurer justement que ce genre de programme-là ne disparaisse pas, parce qu'on l'a entendu, ça a fait énormément de vagues. Mais il y a d'autres sports également qui ferment des programmes pour les filles. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. On veut l'équité, on veut l'égalité des chances pour chacun et chacune. Et je demande, moi, aux équipes professionnelles, le Canadien de Montréal, en l'occurrence, comme on fait dans la NBA, la WNBA, où on supporte les filles professionnelles, pourquoi pas le faire avec, justement, les filles, pour qu'ils puissent gagner leur vie.
Ben
on peut savoir de grandes modèles pour ces jeunes femmes-là.
C'est une excellente question, mais par ailleurs, il semble que les problèmes de recrutement soient bien réels. Il semble qu'il manque de joueuses pour faire vivre ces programmes d'élite, puis en même temps, bien, les joueuses d'élite manquent de débouchés qu'elles veulent s'épanouir. Il y a un paradoxe, là, mais il y a un manque de joueuses dans le bassin de joueuses québécois.
Effectivement, mais ça, c'est l'œuf ou la poule, Mme Mercier. Là, si on a des bons programmes, si il y a une bonne structure, si les heures d'entraînement bénéficient justement ces joueuses-là, mais ça va être plus intéressant aussi. C'est facile de dire de l'autre côté, de dire, bien là, il n'y a pas assez de joueurs, c'est difficile de faire vivre un programme, mais ça va prendre du temps, là. Ça va prendre du temps. On n'est pas rendu au même niveau que les garçons, par exemple. C'est relativement nouveau, là. C'est relativement nouveau pour les joueurs.
Il faut s'en occuper, il faut investir dans ces filières-là. Merci beaucoup, M. Tchikone, d'avoir été avec nous.
Merci, bonne soirée.
Bonsoir. Le temps que les adolescents passent devant leurs écrans a fortement augmenté pendant la pandémie. C'est ce que confirme une étude produite par la Santé publique de Montréal. Fanny Lachance-Paquette s'est penchée sur ce dossier. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Noémie.
Donc, les jeunes ont tellement passé de temps devant leurs écrans qu'en fait, eux-mêmes en ont plein leur casque.
Ils étaient tannés, mais ils étaient quand même devant leur écran, Noémie. C'est ce qu'on a compris de cette étude-là, qui a été faite dans un moment bien particulier de la pandémie, où il y avait encore le couvre-feu, donc avril et mai de l'année dernière. Et on a donc interrogé plus de 700 adolescents âgés entre 13 à 17 ans. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait 7 de ces répondants-là sur 10 qui avaient beaucoup augmenté leur utilisation pendant cette période-là. Et qu'il y a même 27 % des répondants qui disaient passer plus de 5 heures par jour devant l'écran en semaine. Et la fin de semaine, c'était 44 % d'entre eux. Alors, c'est beaucoup, mais il faut dire qu'il y a quand même des aspects positifs aussi aux écrans. Ça leur a permis de socialiser pendant cette période-là. Parfois, on s'entraînait devant les écrans, on apprenait des choses aussi. Le problème, c'est plutôt chez les gros consommateurs d'écrans qui, eux, ne se tannent pas. Ça a un impact négatif sur leur vie. Dans plus du tiers des cas, ils ont constaté qu'effectivement, il y avait des répercussions négatives. Et j'en ai discuté avec deux chercheurs, dont un qui était responsable de cette étude.
Au niveau du sommeil, au niveau de la motivation et tout ça. Mais sinon, ça va être au niveau de la satisfaction dans la vie, la satisfaction dans les relations avec les proches. Ça va être aussi au niveau des résultats scolaires, par exemple, qui vont être plus faibles. Ça va être aussi plus d'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc, ce type d'indicateurs de santé et de bien-être-là, quand on les compare, ils sont nettement moins bons chez les grands utilisateurs.
Ça souligne vraiment bien, c'est l'importance de la prévention qu'il y a à faire auprès des étudiants. Même si on a une partie qui a conscience, il y a quand même une partie. Ça me montre bien qu'il y a une partie qui a peu conscience, peut-être des méfaits. Peut-être qu'ils n'en ont pas du tout, mais il faut quand même juste s'en assurer. Puis je trouve vraiment l'idée d'être tanné. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on fait quand on est tanné. Est-ce qu'on change vraiment quand on est ado?
Là, Fanny, les jeunes se sont habitués à se tourner vers les écrans pour tous les aspects de leur vie. Est-ce qu'on craint qu'ils délaissent les contacts humains carrément?
Bien, il y a l'organisme Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qui travaille justement avec les adolescents et leur rapport aux écrans. Et eux, ce qu'ils ont entendu de la part des adolescents pendant la pandémie, c'est que ça leur avait manqué le contact humain, le face-à-face avec leurs amis.
Mais en général, le contact en face-à-face, il reste quand même irremplaçable. Les réseaux sociaux, les textos, ça va venir en complémentarité. Là, avec la pandémie, c'est que ça remplaçait carrément les liens qu'on avait avec nos amis. Fait que c'est pour ça qu'on a réalisé que ça ne fonctionnait pas comme ça. Là.
Et le 22 mai, Noémie, c'est la journée « Pose ton écran ». Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est d'essayer pendant 24 heures de ne pas utiliser aucun appareil qu'ils ont qui nécessite des écrans. Ça sera pas facile. C'est un bon défi, peut-être, pour prendre conscience d'à quel point ils sont présents dans nos vies.
Bien, effectivement. Moi, je serais pas capable.
Moi non plus.
Merci, Fanny.
Merci.
Avec le retour des températures plus clémentes, c'est aussi le retour des codes vestimentaires plus stricts dans les écoles. Il y a des élèves, le plus souvent des filles, qui se font dire par leurs profs ou par la direction que leurs tenues sont trop légères et qu'elles doivent se couvrir ou retourner à la maison. On va en discuter avec la journaliste Maude Goyer. Bonsoir, Maude.
Bonsoir.
Alors, grâce à la communauté que tu animes sur les réseaux sociaux autour de ta plateforme Maman 24/7, toi, tu as recueilli des nombreux témoignages troublants de ce genre d'incidents. Raconte-nous le genre de choses qu'on t'a racontées, qui se passent dans les écoles du Québec en ce moment.
J'ai reçu un tsunami de messages, Noémie, en fait. Et ce que les parents me racontent et certaines jeunes filles me racontent, c'est que le code vestimentaire n'est pas appliqué de la même façon pour elles que pour leurs camarades masculins. Par exemple, ben, une fille qui va porter des leggings en dessous d'un short, donc dans une école publique, une fille donc de 16 ans va se faire dire ben, que c'est indécent, que c'est inadéquat. Pourquoi? Parce que le legging est interdit à cette école-là, mais en plus, les shorts étaient trop courtes. Alors, même si elle avait des leggings en dessous, ça ne convient pas. Une fille de 5e année au primaire qui s'est faite avertir par la directrice parce que son col roulé était trop moulant. La jeune fille a eu sa puberté, donc elle est développée. Là, c'est ce que la maman me racontait, qu'elle a des formes, 5e année du primaire, et on lui dit, donc elle a 11 ans, tu ne peux pas porter ce col roulé-là parce que ça te dérange. Alors, c'est des exemples comme ça. Il y en a tout plein. Il y a une petite fille de 5 ans qui a dit à sa mère, je ne peux pas mettre cette robe-là parce qu'elle a des bretelles spaghetti. Maman, qu'est-ce qu'elles ont mes épaules? Qu'est-ce qu'elles ont mes épaules? Pourquoi je ne peux pas montrer mes épaules? Donc, il y a une certaine époque, Noémie, on ne peut pas montrer la cheville, le genou ou la cuisse. Mais aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'on a décidé de sexualiser chez les femmes et ça a l'air que c'est l'épaule. Le décolleté, c'est très, très dérangeant. La cuisse, ça dépend à quelle partie. Donc, ça devient compliqué et c'est, on demande aux jeunes filles de se gérer pour gérer le regard masculin.
Parce que c'est ça qui dérange, c'est qu'on craint. En fait, qui ça dérange au juste? Qui passe ces commentaires et pour protéger qui?
Bien, c'est ça. En fait, c'est toujours ces deux questions-là, moi, je trouve qu'il faut poser dans ce débat-là. À quel moment on va dire aux jeunes filles et aux femmes arrêter de leur dire comment s'habiller? Donc, dans quel contexte on va enfin arrêter de leur dire? Et qui ça dérange et pourquoi? C'est ça qui est l'essence de la chose. Et dans le fond, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on met la charge mentale et la responsabilisation de la gestion de l'image et du corps sur les jeunes femmes. Parce que ça peut déranger les garçons et ça fait aussi donc des injustices. Parce que le code vestimentaire n'est pas appliqué de façon égale chez les garçons, chez les filles. Donc, par exemple, une fille me disait, je mets des jeans avec des trous à l'école publique, c'est très à la mode, que mon frère portait depuis 2 ans. Je les mets, c'est jugé inadéquat parce que le trou est trop haut pour la fille.
Ah là là!
Donc, mais le message on envoie aux jeunes filles. Tu sais, les jeunes filles se sentent humiliées, ont honte, se sentent coupables, manquent de l'école parce que des fois, on les revire de bord. Donc, c'est une jeune fille qui a répondu.
Bien, on les tient responsables aussi de la réaction qu'elles suscitent chez les garçons. Mais la beauté, quelque part, là-dedans, c'est qu'elles ne se laissent pas faire. Elles dénoncent, ces jeunes filles-là, elles dénoncent la situation, elles manifestent leur désaccord.
C'est pas nouveau, hein. Tout ce débat-là n'est pas nouveau, mais effectivement, les jeunes filles ne sont pas silencieuses, elles se manifestent. Elles ont des choses à dire, je pense qu'il faudrait les écouter. Elles ne disent pas nécessairement, Noémie, qu'elles ne veulent plus de code. Elles aiment avoir un certain encadrement, avoir certaines règles, mais il faudrait peut-être leur parler, les écouter, décider de choses ensemble et finalement, enfin, laisser les filles s'habiller comme elles le veulent. Moi, c'est surtout ça. Je trouve ça très dommage, le message qu'on envoie aux filles, que dès l'âge de 12 ans, 10 ans, 8 ans même, et dans un autre cas, 5 ans, on leur dise qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui est indécent selon certaines normes sociales.
Ben oui, puis ça peut certainement avoir des effets pervers sur leur estime d'elles-mêmes, la fierté qu'elles ont de leur corps. Merci beaucoup, Maude Goyer, d'avoir partagé ces réflexions avec nous.
Merci.
À bientôt. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, 2 vétérans des Forces armées canadiennes lancent un message aux autres soldats afin qu'ils brisent l'isolement. Jean-François Dupont souffre du syndrome de stress post-traumatique. Il a choisi de parcourir le chemin de Compostelle pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Il sera accompagné de son ami Robert Trépanier, un autre vétéran. Marc-André Pelletier les a rencontrés.
En janvier 2021, j'ai malheureusement fait une tentative de suicide. Puis, aujourd'hui, je comprends que le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Moi, ça a pris plus de temps à m'affecter. Ça m'a affecté pendant plusieurs années. Puis, en me mentant moi-même, je me pensais bien.
La plupart des vétérans s'isolent. La plupart s'isolent. La majorité s'isolent. Quand, au contraire, il faut sortir. quand on a commencé à parler de cette expérience de vie-là, j'ai vu dans ses yeux un intérêt marqué.
C'est un peu ce que j'ai vécu en Bosnie en 1995. Je me suis immergé dans la culture. Je suis venu tellement près de ces gens-là que la guerre m'a affecté au plus haut point, moi aussi. Puis c'est là-dessus, à quelque part, que je veux aller un peu parler à moi-même, dire, regarde, t'as fait ce que tu avais à faire, ta mission est accomplie.
J'ai toujours dit que Compostelle, c'est le plus beau voyage d'une vie qu'une personne peut s'offrir, comparé avec n'importe quel voyage. J'ai fait 5 missions qui m'ont apporté toutes sortes de bienfaits. Alors, moi, Compostelle, peu importe le prix, le coût, ça n'a pas de prix. On ne fait pas un parcours de 700-800 km cette fois-ci. Ça va durer peut-être 300-ish km. Alors, il va voir. Et puis, on a tracé un trajet où ce que il va avoir la chance de se reposer. On ne fait pas... c'est pas une course.
Je revois les images de 92 à 95. Je revois des gens dans la détresse, dans le désespoir, chercher, se faire mettre dehors de leur chez eux, qui sont habituellement leur refuge, leur endroit où ce qu'ils vont être le plus sécurisé. Mais c'est exactement ça ce qui se passe là, présentement. Puis de voir un pays comme la Russie qui s'était dit progressiste puis qui voulait devenir moderne, on retourne en 1939, là, présentement.
J'espère que notre histoire va pouvoir servir à d'autres vétérans que c'est une façon de sortir de l'isolement.
C'est le gros mal qui nous affecte, nous, les vétérans, premiers répondants, tous ceux qui vivent avec un syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qui nous affecte le plus, l'isolement. Sortez.
Le cabinet de maître Anne-France Goldwater poursuit la Ville de Longueuil et le gouvernement du Québec afin de bloquer l'abattage des cerfs du parc Michel Chartrand. La requête évoque la mauvaise foi de la Ville et ordonne au ministère de la Faune d'émettre un permis pour que les animaux soient relocalisés. La Ville doit abattre dès cette année entre 50 et 75 cerfs. L'avocate croit qu'il est toujours possible de capturer les animaux et de les transférer vers des refuges.
Parce que plein vont me dire que les cerfs de Virginie ne sont pas, c'est pas une espèce menacée, mais notre paresse à ne pas trouver des solutions pour des animaux sur notre grand territoire est époustouflant.
Dans quelques minutes, un cortège de cyclistes partira du parc Jarry à Montréal et roulera en silence en mémoire des cyclistes morts dans des accidents de la route. Des tours du silence de ce genre se tiennent aujourd'hui dans plus de 200 villes dans le monde, dont une quinzaine au Québec. Selon le bilan de la Société d'assurance automobile dévoilé hier, le nombre de cyclistes qui meurent sur les routes du Québec a doublé en 5 ans, passant de 8 en 2016 à 16 en 2021. On en discute avec Magali Bebron, elle est directrice des programmes et porte-parole chez Vélo-Québec. Bonsoir, Magali.
Bonsoir.
Bienvenue à l'émission. Comment est-ce qu'on explique une telle augmentation du nombre de cyclistes qui meurent sur les routes du Québec?
Écoutez, c'est un petit peu surprenant parce que depuis des années, on avait vraiment une amélioration du bilan routier du côté des cyclistes. L'an dernier, avec la pandémie, on a vu vraiment une explosion du nombre de décès en particulier et on a mis ça sur le compte de la pandémie, des changements de comportement, de la vitesse peut-être aussi accrue parce qu'il y avait beaucoup moins de congestion. Et puis là, c'est la deuxième année où on voit vraiment cette tendance qui semble se confirmer. Les explications, elles peuvent être multiples. Hein. La sécurité routière, c'est toujours un mélange de comportement personnel, d'aménagement de nos routes et puis de véhicules également, la sécurité des véhicules. Et malheureusement, une des tendances qu'on remarque sur nos routes au Québec, comme partout ailleurs, c'est la prolifération des VUS et des camions légers. Ça pourrait être une part de l'explication. Quand vient le temps de parler aussi des cyclistes, on sait qu'à peu près la moitié des décès de cyclistes, ça implique des camions, donc des véhicules lourds qui ont de très grands angles morts. Et ça, malheureusement, c'est des scénario qui se répète sans cesse dans les rues, notamment de Montréal.
Mais revenons au VUS. En quoi est-ce que la prolifération de VUS peut mettre en danger davantage la vie des cyclistes?
Écoutez, c'est très, très bien documenté. Ces véhicules-là sont plus lourds, ils sont plus hauts également. Ça veut dire que quand ils vous frappent, ils frappent avec une plus grande énergie. Hein. L'énergie cinétique, c'est la masse et la vitesse au carré. Donc, plus un véhicule est lourd, plus il est rapide, plus ça va faire mal quand ça frappe. Et puis, ce sont des véhicules qui vont aussi frapper plus haut. Donc, alors qu'un véhicule traditionnel va frapper les jambes, le VUS, lui, va frapper le haut du corps, les organes vitaux. Alors, ça commence à être très bien documenté comment ces camions légers-là sont liés à un piètre bilan routier et à vraiment une détérioration du bilan routier. La tendance qu'on observe, elle est malheureusement généralisée. Aux États-Unis, on apprenait hier aussi qu'on a le pire bilan routier depuis 16 ans.
Est-ce que la multiplication des accidents, notamment des accidents mortels, ça peut être aussi le résultat du nombre accru de gens qui ont adopté le vélo, notamment pendant la pandémie? Il y a plus de cyclistes sur les routes, il y a donc plus d'accidents qui les impliquent.
Oui, certainement, il faut toujours prendre ces chiffres-là avec précaution et de façon relative à la pratique. Alors, on était très, très encouragés au cours des dernières années de voir que le bilan routier des cyclistes s'améliorait alors qu'ils étaient de plus en plus nombreux et aussi alors que le nombre de véhicules en circulation ne cessait de croître. Là, on voit encore une augmentation de 2% du nombre de véhicules en circulation. Alors, oui, les habitudes de déplacement ont changé pendant la pandémie. On a vu plus de gens opter pour le vélo à des fins de loisirs, mais un petit peu moins pour se déplacer. Alors, de là à vraiment attribuer ça à une hausse de la pratique du vélo, ça restera à voir. Peut-être aussi que les gens qui ont fait davantage de vélo pendant la pandémie étaient moins expérimentés. Mm-hmm. C'est beaucoup d'hypothèses qu'il faudrait vérifier.
Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville comme Montréal pour mieux protéger les cyclistes?
Et écoutez, je vous le disais tantôt, ça passe aussi beaucoup par l'aménagement. Les comportements des usagers sont vraiment fonction de l'aménagement. Une rue ou une route à plusieurs voies qui invite à la vitesse, on sait que c'est plus dangereux, on sait que c'est là où les collisions vont être les plus sérieuses, les plus nombreuses. Alors bien sûr, l'apaisement de la circulation, le développement du réseau cyclable qu'on peut attribuer pour les relatifs gains qu'on a fait au cours des deux dernières décennies, il faut vraiment continuer dans cette voie-là. Il faut mieux aménager la ville. Et puis, il va falloir s'attaquer à la question des véhicules dangereux. La ville a le pouvoir de réguler un petit peu quels véhicules peuvent circuler dans ces rues. Mais il va falloir aussi s'adresser au palier supérieur de gouvernement pour commencer à agir sur les normes des véhicules en circulation, notamment des camions, et puis voir où est-ce qu'ils sont autorisés.
Merci beaucoup pour ces informations. Magali Bebrun, vous êtes directrice des programmes et porte-parole chez Vélo Québec. Bonne soirée.
Bonne soirée.
L'inflation poursuit sa progression au Canada. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8 % en avril par rapport à la même période l'an dernier. Il faut remonter à janvier 1991 pour retrouver une hausse aussi importante du prix des biens et services. L'essence et la nourriture coûtent particulièrement cher. En avril dernier, les Canadiens ont payé 9,7 % de plus pour leurs aliments en épicerie qu'en avril 2021. C'est la hausse la plus forte en 41 ans. Le Saguenay a rayonné d'un océan à l'autre hier grâce à Yannick Fournier. On lui a parlé au lendemain de sa grande victoire. On vous livre ses impressions au retour. La Saguenayenne Yannick Fournier a remporté la grande finale de Canada's Got Talent hier soir grâce à son interprétation de la chanson « The Show Must Go On » de Queen. La préposée aux bénéficiaires de 49 ans s'est méritée une bourse de 150 000 $ et une participation à un spectacle de America's Got Talent à Las Vegas. Quelques heures après sa victoire, elle en était toujours stupéfaite.
Je suis encore sous le choc, je le crois pas, je suis comme dans un rêve, là. D'ici peut-être une semaine, je vais peut-être retomber de tout ça. Mais pour l'instant, c'est incroyable. J'ai pincez-moi. J'ai juste les mots incroyables, merci beaucoup, puis c'est extraordinaire. Mais moi, je me suis permise d'y croire vraiment jusqu'au moment où on était tous les deux chanteuses, à côté de Lindsay, là, de chaque côté. Parce qu'avant, j'aime pas avoir des attentes dans la vie parce qu'on sait que les attentes, ça tue, ça amène beaucoup de déceptions. Fait que, rendu à ce moment-là, je me suis permis de dire, ouais, je pense que c'est là que ça se passe, tu sais. Oui, je vais vivre ça, là. Il va arriver ça, Yannick, tu sais. Vous auriez pu voir mon cœur passer à travers ma robe, vous l'auriez vu. C'est tellement intense. C'est extraordinaire. Bien, vous savez, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me doutais bien que j'aurais du bon, plein de bon monde en arrière de moi, mais de cette intensité-là, puis au niveau du Québec, je me suis sentie portée comme un enfant. Tiens, vas-y, avance, Yannick, on est fiers de toi, puis go, go. Je sais que tu vas bien nous représenter. C'est comme ça que je me suis sentie. Vraiment tellement bien accompagnée, puis j'en profite pour dire encore une fois mille merci à tous ceux qui ont voté, qui ont été là pour moi, puis qui m'ont supportée, puis qui m'ont encouragée depuis toutes ces années que je fais de la musique aussi. Puis c'est ça que je me rends compte. Tu sais, je vois que les gens, ils se reconnaissent beaucoup à travers moi, à travers mon histoire, puis ça me touche énormément. Moi, je me suis dit, je suis sur la terre pour faire une mission, c'est rendre les gens heureux, puis apporter du bien. Puis je suis contente de le faire à plus grande échelle, mais oui, je crois que l'authenticité, c'est ce qui fait que ça peut être gagnant. Le charisme.
Il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires. Quatre jeunes de 19 à 21 ans ont décidé d'ouvrir le studio Zartis à Shawinigan, qui propose des services de design et de tatouage, en plus de servir le café. Rebecca Pépin nous présente ces quatre entrepreneurs qui ne manquent pas de projets.
On commence avec la zone café ici. Fait que dans le fond, les clients rentrent puis ils peuvent se faire servir au comptoir. Ici, on a quelques présentoirs avec des items qu'on vend, en fait. Fait que c'est là qu'on peut faire des sites web, des logos. C'est la pièce de tatouage, une des deux pièces, en fait. Moi, lui, c'est mon ami depuis très longtemps. Fait que bien sûr, on se connaissait depuis longtemps puis on avait déjà beaucoup d'idées de partir en affaires. Puis on a décidé de tout rallier ça à quatre puis de partir en entreprise.
Les deux gars voulaient investir en immobilier au départ. Puis moi, j'ai toujours... ça fait 4 ans que je tatoue. En ce moment, puis je tatouais dans un petit local chez moi. On a commencé avec les trois dans le projet. Puis ensuite, Anaïs s'est comme rajoutée avec le côté café qu'au départ, on n'avait aucune idée que ça existerait de base.
Je fais surtout en fait de la création de logos pour le moment. Création d'identité visuelle en général aussi. Site web, on fait ça.
On visait surtout le côté artistique de la chose. Le graphisme, c'est quelque chose qui est artistique. Les chandelles que Anaïs a fait sont vraiment artistiques. C'est pas juste une chandelle plate blanche. Même chose pour les cafés, on fait des trucs originaux et tout pour, c'est ça, représenter le côté artiste pour l'expérience puis pour notre jeunesse. On veut vraiment briser les stéréotypes.
Ouais, je crois qu'on a créé quelque chose d'unique à Mauricie.
C'est aujourd'hui que la deuxième roulotte de l'organisme Dans la rue prenait d'assaut les rues de Montréal. Ce service vient en aide aux jeunes âgés entre 12 et 25 ans qui sont en situation d'itinérance. L'organisme innove en utilisant un véhicule totalement alimenté en gaz naturel renouvelable. La roulotte va permettre à l'organisme de poursuivre sa mission sociale.
L'autobus est au gaz naturel renouvelable, en fait. Donc, c'est du gaz naturel qui est issu de déchets organiques. C'est très important la façon dont on accueille les jeunes à l'intérieur de la roulotte.
J'aime travailler avec les jeunes qui sont dans la rue tout, juste pour écouter à ce qu'ils doivent dire. Et la roulotte est destinée pour les jeunes de 12 à 25 ans. Ça, c'est les âges vraiment vulnérables qu'ils ont besoin à quelqu'un à écouter.
Ils vont avoir un endroit chaud, ils ont des bancs, les bénévoles sont là, ils leur demandent ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer un quart d'heure, une demi-heure à converser ou parfois plus.
Le plus important qu'on donne, et j'ai dit à toute mon équipe, c'est quand tu rentres dans le relot, ton cellulaire est fermé et tu vas penser seulement à les jeunes. Tes problèmes sont restés à la porte parce que c'est eux autres qui doivent avoir ton 100% de ton temps.
Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors, ce soir, au fil 22h, tu t'entretiens avec la mairesse de Montréal, qui est à New York en ce moment.
Valérie Plante, qui est en mission de 5 jours du côté de New York. Elle a rencontré la délégation générale du Québec à New York, mais également, elle y est surtout pour parler de migration, parce qu'elle a rencontré les maires des villes, membres de United Cities, et ils ont rencontré aujourd'hui des représentants de l'ONU pour parler d'immigration. Elle y a, en fait, défendu l'expertise des villes dans l'élaboration des politiques migratoires. Elle sera donc notre invitée à 22h. On va en profiter également pour la faire réagir sur d'autres dossiers de la métropole.
Bien oui, c'est riche en ce moment, certainement. Et ce soir, tu reviens également sur la visite du couple princier, oui. Charles et Camilla.
Qui était à Ottawa aujourd'hui également. Il y a une visite dans une église ukrainienne. On va parler de l'importance et de l'enjeu de ce voyage-là pour la position position de Charles en matière de relève, hein, puis la question est de plus en plus pertinente compte tenu de l'état de santé de la reine. On va parler avec un passionné, mais également un critique de la monarchie que tu connais bien, l'humoriste et acteur Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques. On l'avait déjà reçu sur la question au fil du 7. Alors, il sera avec nous ce soir.
Fabuleux. Merci, Michel. Bye bye. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain à 17h.